Paix. Il est 7 heures. Le journal du 7 heures. Didier Blé.
Bienvenue à tous, merci de nous retrouver. Première édition de la matinée. 10e édition de la Journée nationale de l'excellence célébrée ce mardi. 83 prix ont été décernés. Chaque lauréat a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Patrick Cachy, le Premier ministre ivoirien, nous situera sur l'importance de cette initiative. Rentrée scolaire 2023-2024, comment se préparent les parents d'élèves? Chacun va à son rythme, certains en TGV, d'autres à vélo. Entre anticipation et difficultés financières, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis actualité africaine au Gabon, Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements et peut quitter le pays, annonce le général Oligui. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du président de la transition lu ce mercredi soir à la télévision. Vous aurez la revue des titres dans cette édition présentée par Jean-Claude Comé. Et puis dernière articulation de ce journal, l'invité de la rédaction ce jeudi est le professeur Jean-Marie Kouakou. L'universitaire et professeur de lettres jettera un regard sur le déroulement des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. Il sera en compagnie de Soro Adams. Monsieur, bonjour et bienvenue. 83 prix au total ont été décernés ce mardi lors de la cérémonie solennelle de la Journée nationale de l'excellence présidée par Alassane Ouattara, le chef de l'État. Les lauréats qui ont été récompensés pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, discipline et le travail ont reçu chacun un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. Sur l'importance de ce prix, on écoute le Premier ministre ivoirien, Patrick Cachy.
Il vous a plu d'instituer en 2013 le prix national d'excellence qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration dans leur corporation. En 10 ans, ce sont plus de 651 lauréats qui ont été récompensés, du secteur public comme du secteur privé, dans des domaines variés qui tous impactent le développement de notre grand pays. Cette journée nationale de l'excellence nous incite à serrer les rangs derrière votre vision pour aller toujours plus haut et toujours plus loin. Cette journée nationale d'excellence nous invite à redoubler d'efforts également pour continuer de construire sous votre égide notre grande nation.
C'était Patrick Cachy, le Premier ministre ivoirien. Retour sur les élections locales, municipales et régionales couplées. Après la proclamation des résultats, l'heure est au préparatif des différents bilans. Du côté du Front populaire ivoirien, le parti dirigé par Pascal Afenguessan, c'est un peu la mine grise face au score enregistré. Sur les 18 têtes de liste engagées par le FPI, aucune n'a ramené une victoire. C'est du moins ce qui ressort de ses propos de Kwaku Kra. Il est le vice-président du FPI chargé des questions électorales.
Nous nous réjouissons d'avoir pris part à ces élections, mais les résultats obtenus n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Nous avons engagé des têtes de liste et nous n'avons pas obtenu de bons résultats à ce niveau. Nous avons engagé des conseillers avec le RIDP et à ce niveau, le résultat est satisfaisant. Donc, je peux dire que notre participation n'a pas été assez bonne, ce que je peux retenir.
Vous dites n'avoir pas eu de bons résultats. Qu'est-ce à dire précisément? Quels sont vos résultats?
Il y a deux types de résultats. Les résultats avec nos têtes de liste, c'est ce qui n'a pas été bon. Nous avons engagé 18 têtes de liste et nous avons obtenu 0 tête de liste. Par contre, nous avons engagé plusieurs conseillers sur la quasi-totalité des listes du RIDP. À ce niveau, nos camarades ont été élus avec le RIDP. Ça, c'est dans le cadre du partenariat. À ce niveau, je peux dire que le résultat est satisfaisant. Nous sommes installés sur l'ensemble du territoire et aujourd'hui, n'ayant pas eu de tête de liste, nos résultats ne reflètent pas la valeur réelle de notre parti.
Voilà, c'était Kwaku Kra, vice-président du FPI chargé des questions électorales, élection locale toujours. Quel regard sur la participation des femmes? Radio de la Paix s'est adressée à la présidente de l'IDE africaine, une ONG qui travaille sur les questions de leadership féminin, d'autonomisation des femmes et de leur accession aux postes de décision. L'écoute, qu'a dit à nous?
C'est un regard hagard pour l'instant, hein, en attendant de faire des analyses beaucoup plus poussées sur la question, sur les différents résultats. Mais déjà, on peut constater que ce n'est certes pas ce à quoi nous nous attendons, mais il y a déjà une évolution. Parce qu'on passe aujourd'hui de 16 maires femmes, anciennement en Côte d'Ivoire, à 24 aujourd'hui. Il y a une légère progression. Mais si on s'en tient au quota qu'on recherche, on est encore très loin. Donc, au niveau du conseil régional aussi, on passe d'une femme présidente à deux femmes. Bon, on prend. De toute façon, on apprend à apprécier tous les petits pas qu'on arrive à faire au fur et à mesure.
En attendant, comme vous le dites si bien et de façon récurrente, d'atteindre un taux de participation femme tête de liste est beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui.
Exactement. Femme tête de liste, parce que c'était logique, en fait, ce résultat qu'on a aujourd'hui. C'était quasi impossible d'avoir plus que ça, à peut-être quelques chiffres près, pour la simple raison que c'est vrai qu'on a dit qu'il y avait 30% de femmes sur les listes des candidatures, mais ce n'était pas des têtes de liste. Et donc, si on fait le point aujourd'hui, on dira oui, il y a une avancée. Et on félicite toutes les organisations pour les efforts qui ont été faits. On a encore beaucoup de choses à faire et on retrouve les manches, on ne lâche pas.
Vous écoutez Kadi Tanou, elle a été jointe par Junior Cardin. Kadi Tanou est présidente de l'IDE africaine, une ONG qui travaille sur la question du leadership féminin. Éducation nationale, rentrée scolaire 2023-2024, comment se préparent les parents d'élèves? À chacun sa stratégie face à la cherté de la vie, aux frais élevés de scolarité et de fourniture. Autant de difficultés auxquelles certains parents affirment être confrontés à quelques jours de la rentrée scolaire prévue le 11 septembre, dans 4 jours donc. Ils en font cas dans ce reportage proposé par Mel Amani Emmanuel.
Pour la rentrée scolaire prochaine, les parents d'élèves y vont selon leur rythme. Pour Aka Charlotte, la meilleure méthode, c'est l'anticipation.
Pour ne pas être surpris, pour ne pas après s'asseoir pour dire comment je vais faire pour mettre mes enfants à l'école, c'est dès les vacances qu'on commence à préparer la rentrée prochaine.
Point de vue partagé par Yao Kofi Armand, qui lui, se prépare même avant la fin de l'année scolaire courante.
Moi, j'ai pris la disposition depuis le mois de mai-juin, commencer à préparer la rentrée.
Landry Veilly fait remarquer certaines réalités dans son voisinage.
Je constate un peu dans mon voisinage qu'il y a véritablement un déficit financière parce que certains ont opéré pour des prêts scolaires, d'autres ont opéré aussi pour des factures qu'ils attendent.
Difficulté qui expliquerait la timidité des inscriptions dans certaines écoles.
Moi, je suis allé inscrire ma fille hier à la maternelle, j'ai pas trouvé plus que deux personnes.
Les situations auxquelles sont confrontés certains parents d'élèves les amènent à traîner les pas. Parmi elles, nous comptons d'une part la cherté de la vie.
Vu l'augmentation des choses sur le marché, c'est un peu difficile. C'est difficile d'abord de joindre les deux bouts.
Et d'autre part, l'achat des fournitures adossé à l'accroissement des frais de scolarité.
Les écoles privées ont augmenté. Ceux qui faisaient 100 000, maintenant ils ont mis 130 000. Les écoles publiques aussi, vraiment, c'est difficile pour nous les parents. Par rapport aux fournitures, les livres, vraiment c'est difficile.
La rentrée scolaire est une période cruciale sur le plan financier pour les parents d'élèves. Rappelons que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a annoncé le début de l'année scolaire 2023-2024 pour le 11 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire ivoirien.
Merci à vous Emmanuel. Nous restons toujours en tenue scolaire d'Abidjan à Daoukro. Les poupons, eux, entreront bientôt dans les mots. Les inscriptions ont débuté à la maternelle et au cours préparatoire première année à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de la ville. Elles s'achèvent ce vendredi 8 septembre. Bien qu'elles soient gratuites, elles n'attirent pas grand monde pour l'instant. Le constat Daoukro de notre correspondant sur place, François Kra.
Les premiers jours sont toujours ainsi. C'est le jour de la rentrée que les parents arrivent massivement, a regretté le directeur de l'EPP d'Ioulakro 1.
Petite difficulté avec l'élément de François Kahn, nous en parlerons justement au cours de nos différentes éditions. Santé à présent dans ce journal de passage à Odienné, dans une de ses missions, le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire dit avoir été bouleversé par le taux élevé des décès maternels dans la région du Kabadougou. C'est pourquoi il a pris l'engagement d'accompagner les femmes de la localité à travers un projet dénommé l'Onyuma, qui signifie en langue locale le jour du bonheur. Ce projet pilote devrait à terme permettre à la Côte d'Ivoire de freiner ce type de décès à l'horizon 2030. Là-dessus, on écoute Dr Jean-Marie Vianney Yameogo.
Pour nous, pour l'OMS, l'Olouma, c'est vraiment la réponse à cette question de mortalité élevée, que ce soit pour les mères, que ce soit pour les nouveau-nés, que ce soit pour les enfants. Alors, l'OUMA est effectivement une initiative, c'est une réponse, c'est une des solutions. Pourquoi ? Parce que l'OUMA, ça va améliorer les consultations prénatales, ça va améliorer la détection des risques. Enfin, l'OUMA, on espère qu'avec d'autres partenaires, on pourra travailler sur l'alphabétisation des femmes, qui permettra à la femme d'être autonome.
Aujourd'hui, le taux de mortalité maternelle ici en Côte d'Ivoire est autour de combien ?
Le taux de mortalité maternelle est passé donc de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 380 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça, c'est les 380 décès, c'est le recensement général de la population de 2022. Il est encore très élevé parce que l'objectif d'ici 2030, c'est être à moins de 140 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Côte d'Ivoire est à 380. 2030, c'est dans 5 ans. Et il faut accélérer les initiatives. Il faut qu'il y ait des initiatives comme celles que nous venons de lancer qui puissent amener un engagement de ces différents niveaux, faire en sorte qu'on accélère l'atteinte de cet objectif développement durable qui est l'objectif numéro 3 de 2030. Il est encore élevé pour la Côte d'Ivoire et c'est ça le défi qu'on doit relever dans toutes les régions du pays.
Docteur Jean-Marie Vianney Yamehogo, il est représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire. Je rappelle qu'il était au micro de Bakary Touré Labasse, notre correspondant dans le district autonome du Dengueulé. Et puis nous revenons sur l'élément. Nous avions justement parlé il y a un court instant, un élément relatif à l'inscription des poupons maternels, les CP1 à Daoukro. On l'a dit, François Kra a fait un constat, il revient sur cet élément.
Les premiers jours sont toujours ainsi. C'est le jour de la rentrée que les parents arrivent massivement, a regretté le directeur de l'EPP d'Iwulakro 1, Kofi Konan Léopold.
C'est l'amer constat. Jusque-là, les parents ne s'affichent pas. Dès la rentrée, à partir du lundi 11, nous serons débordés et c'est difficile pour le directeur d'allier en même temps enseignement et encore recrutement.
Pour Brou-Laurent, cette lenteur des parents est liée au manque de moyens financiers.
Si je suis à Daoukro et que je dois inscrire mon enfant à Soubré ou bien à Saint-Pedro ou bien à Boisseau, aujourd'hui, la date fixée comme la fermeture, c'est le 8 septembre. En un mot, le délai est court. Je fais comment ? Les moyens financiers, en tout cas, font défaut.
Des personnes interrogées en ville disent ne pas être informées du déroulement de l'opération.
Kadjo Maurice, moi-même, je ne suis pas au courant. Hein. Ça, c'est un truc. On doit dire un mois avant la rentrée. Il faut qu'on fasse circuler le griot. On doit annoncer dans les églises, dans les mosquées, si possible, même dans les marchés, pour que les femmes soient au courant, afin d'informer leur mari.
Assez Mathieu Billet, directeur principal du groupe scolaire de Gagou, a dit le contraire.
Chaque année, c'est la même chose. Quand on dit que la rentrée fixée à telle date, une semaine avant, est réservée, n'est-ce pas, aux inscriptions au CP1. Donc nous y sommes habitués et logiquement, ça ne devait pas poser de problème.
À en croire Ebouo Kouassi Joseph, conseiller principal d'inspection, ces inscriptions s'effectuent de 7h30 à 16h30 dans les écoles primaires et maternelles publiques. François Kra, Daoukro, Radio de la Paix.
Actualité africaine, le président déchu Ali Bongo Ondimba, nous sommes au Gabon, est libre de ses mouvements et peut se rendre s'il le souhaite à l'étranger, a annoncé à l'antenne de la télévision d'État le colonel Ulrich Manfumbi en lisant un communiqué signé par le général Brice Oligui qui dirige désormais la transition. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août, mené sans effusion de sang moins d'une heure après la proclamation de sa réélection. Ali Bongo Ondimba peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux, poursuit le communiqué. Et puis, premier sommet africain sur le climat. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que des leaders de jeunesse et organisations africaines sont réunis du 4 au 8 septembre à Nairobi, au Kenya. Une rencontre qui a permis l'adoption ce mercredi d'une déclaration africaine sur le climat, dénommée Déclaration de Nairobi. Elle demande notamment l'instauration d'une taxe carbone mondiale, la création de nouveaux droits de tirage spéciaux du FMI pour le climat et plus généralement que l'Afrique ait accès à des financements à un coût abordable pour sa transition énergétique. Sans transition, nous avons retrouvé Jean-Claude Comé pour la revue des titres. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Toujours en pole position des sujets d'actualité qui intéressent la presse, c'est le double scrutin des élections locales du 2 septembre 2023 et ses conséquences surtout. Soir Info constate qu'après la proclamation des résultats provisoires des municipales régionales 2023, ça se plaint dans tous les camps, notamment au plateau avec le candidat du RHDP, dans le Bois-Clé avec celui du PPACI et à Benjerville avec un indépendant pour ne citer que ces cas. Le bélier intrépide pointe selon lui ses graves irrégularités qui interpellent, pendant que sur la voie originale, on peut lire que Hubert Houlaï, le président exécutif du PPACI, exige un audit de la liste électorale. Cette phase de contentieux est prise au sérieux par le RHDP si on s'en tient au confrère Le Matin qui annonce qu'un pool d'avocats a été constitué par ce parti pour assister les candidats contestataires. Mais en attendant, c'est l'heure du bilan de ces élections par le parti présidentiel dont le directoire salue une Côte d'Ivoire aux couleurs RHDP, annonce donc le patriote. Après sa mémorable razzia électorale, le grand bravo aux héros du 2 septembre, écrit le confrère. Et si le RHDP s'est réjoui de sa victoire, le nouveau réveil la présente, cette victoire donc, comme une victoire selon lui du chantage, des pressions et de l'injustice. J'ai cité. Et puis un autre centre d'intérêt de la presse, et c'est ce qu'elle qualifie cette presse-là d'affaire de perquisition le mardi dernier de la mairie de Cocody par des gendarmes. Et sur le sujet, l'intertitre que le camp du maire Yassé s'explique. Éric Taba, candidat au municipal au titre du RHDP à Cocody, réagit. Et le journal relaie aussi cette précision de la commission électorale indépendante. Nous n'avons mandaté personne. Le nouveau réveil sur le sujet relaie aussi les propos de l'avocat du maire de Cocody, maître Agueluc, qui affirme ne pas savoir si ces gendarmes sont venus prendre ou déposer des documents. Et comme pour soutenir l'élection du maire sortant de Cocody, dernière heure mondiale apportait des preuves irréfutables de la victoire de celui-ci à ses municipales. Le jour plus dans des révélations parle de vérité sur cette perquisition. Et puis, Fraternité Matin s'intéresse donc à la rentrée scolaire 2023. Le journal propose une enquête express sur ses parents qui anticipent pour ne pas être surpris.
Merci à vous Jean-Claude. On va anticiper désormais, merci donc. Je rappelle qu'on vous retrouve dans l'édition de 8h. À présent, l'invité de la rédaction, le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités, observateur de la scène sociopolitique africaine et internationale. Il est donc interrogé par Soro Adams. Il se prononce sur le résultat des scrutins des élections municipales et régionales. Entretien.
Bonjour professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour monsieur Soro.
Le samedi 2 septembre 2023, les Ivoiriens étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections locales, entendez élections municipales et élections régionales. Au terme de ce scrutin, que seriez-vous tenté de dire en termes d'appréciation?
Si on prend les résultats à l'instant, on peut dire globalement que le parti au pouvoir a conforté sa position dominante, ce qui était déjà observable dans les dernières élections municipales et régionales. Là, c'est peut-être même un peu plus marqué au vu des résultats tels qu'ils nous sont parvenus. Je ne pourrais pas faire de commentaires ultérieurs puisqu'il y a beaucoup de contentieux. On ne sait pas à quoi vont aboutir les contentieux, si ça va modifier significativement ces résultats ou pas, mais j'observe qu'il y a quand même beaucoup de contentieux, beaucoup de réclamations de candidats qui ne sont pas satisfaits du résultat dans le sens où pour eux ça n'aurait pas été légal. Donc ma conclusion de surface est que on observe une confirmation de la domination du parti au pouvoir au vu des résultats dans leur version actuelle.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, certains parlent de débâcle en ce qui concerne les partis de l'opposition, singulièrement les grands partis comme le PDCI, le PPACI. Vous le confirmez?
Au vu de ce qui est donné actuellement de lire dans la version provisoire des résultats, on est quand même surpris de voir effectivement que le PDCI, surtout le PPACI, me semble, sont en net recul électoral et la dimension, la grande taille de leur parti ne se confirme pas au vu de ce qu'on observe actuellement. Le problème majeur étant le problème qu'on observe dans la plupart des élections généralement observées en Côte d'Ivoire et voire aussi en Afrique, c'est faut-il considérer le résultat en lui-même ou faut-il voir tout l'arrière-plan du résultat, à savoir tout ce qui est contesté généralement par les parties perdantes, c'est-à-dire est-ce que le listing électoral, la distribution des cartes, tout ce qui précède a été fait conformément, est-ce que le scrutin a été tenu dans la régularité stricte et entière? Ce sont des questions qui ne permettent pas de faire une analyse définitive et finalement viable, parce que il y a eu tellement de dévoiements du système électoral et des élections même en général, depuis trop longtemps d'ailleurs, en Afrique et en Côte d'Ivoire aussi en particulier, qu'il est difficile comme ça de dire voici les résultats, voici leur signification. Mais pour l'analyse profonde, on est obligé de rester mesuré, parce qu'on ne peut pas vraiment dire c'est comme si ou c'est pas comme ça. Par exemple, je constate que, curieusement, quand un parti est au pouvoir, quand il a le pouvoir exécutif, il a automatiquement, presque je dirais automatiquement, la majorité électorale du point de vue législatif et municipal, voire régional. C'est presque ce qu'on observe systématiquement.
Et comment pourrait-on l'expliquer ?
C'est la grande question, c'est-à-dire, bon, effectivement, en général, les partis qui sont au pouvoir ont quand même une grande longueur d'avance, parce qu'il y a quand même la confiance de la population dans des gens qui gouvernent. Ceux qui gouvernent en général donnent plus confiance que ceux qui sont dans l'opposition, c'est presque de nature. Maintenant, derrière ça, est-ce qu'il y a tout un appareillage qui est au profit de celui qui est au pouvoir et qui se servirait donc finalement des moyens de l'État? Ça, ce sont des choses qui se disent et qui s'entendent.
Professeur Jean-Marie Kouakou, en ce qui concerne les résultats disponibles, on parle de percées fulgurantes des candidats indépendants.
Oui, c'est remarquable. C'est pourquoi on est obligé de se poser des questions, parce que surtout, peut-être qu'on y viendra tout à l'heure, mais on a vu qu'il y a eu de grands noms qui sont tombés. Bon, ça repose la question de la confiance dans le personnel politique visible, le personnel politique qui s'affiche. Parce que l'indépendant, normalement, c'est quelqu'un qui, en principe, n'est pas d'abord automatiquement désigné par son parti. Son parti ne lui fait pas, en principe, confiance pour gagner dans tel endroit, et donc il désigne plutôt quelqu'un d'autre. Mais là, la signification d'un vote régional et local n'est pas la même que celle d'un vote à l'échelle nationale. Et là, on voit bien que les indépendants sont des gens peut-être davantage ancrés dans leur localité que certains que les partis ont donc positionnés à l'avant, mais qui n'avaient pas cet ancrage. Et du coup, aujourd'hui, en intra-parti, on voit bien que là, les indépendants, il y a une véritable percée. Et que la foi même dans la direction des partis commence à prendre du coup, je crois. C'est vraiment très évident sur ce scrutin.
Vous dites que des grands noms sont tombés. Vous penseriez à qui ?
Je pense par exemple à Ousou Janou.
Le président du Sénat.
Oui, il y a aussi celui qui a perdu Amsokro, le ministre d'Irasuba, je crois. Voilà, il y a quand même des grands noms qui sont tombés. Et là, ça repose la question de la localité, parce que si on est à l'échelle d'un scrutin régional ou local, et des personnalités qui sont visibles à l'échelle nationale prétendent pouvoir gagner dans ces localités. Or, elles ne sont peut-être pas aussi présentes, et donc leur continuité avec la localité n'est pas là. Il y a vraiment un accident, une rupture entre la localité et l'image nationale que ces personnages représentent. On voit bien que la façon de prendre en compte un personnage politique ne peut pas s'évaluer de la même manière si on se situe à l'échelle nationale qu'à l'échelle locale.
Alors, professeur Jean-Marie Kouakou, Iopougon, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, a été déclaré vainqueur, mais il y a une contestation de ses adversaires, notamment le PPACI et le PDCI-RDA.
Oui, attendons le contentieux, on va voir ce qu'il va donner. Les candidats déclarés perdants ont dénoncé pas mal de choses, on va voir ce que ça va donner.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie, Soro. À très bientôt. Hein.
L'invité de la rédaction ce jour est-elle professeur Jean-Marie Kouakou, l'universitaire et professeur de lettres, jeta un regard sur le déroulement des élections municipales et régionales. Il était interrogé par Soro Adam. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. 10e édition de la journée mondiale, journée nationale de l'excellence, autant pour moi, célébrée ce mardi, 83 prix ont été décernés. Chaque lauréat a reçu un diplôme, un trophée et un chèque de 10 millions de francs CFA. La rentrée scolaire 2023-2024, comment se préparent les parents d'élèves? Chacun y va à son rythme, certains en TGV, d'autres à vélo. Entre anticipation et difficultés financières, vous avez suivi un reportage de Mel Emmanuel Amani. Et puis actualité hors de chez nous, au Gabon, Ali Bongo est libre de ses mouvements et peut quitter le pays, annonce le général Oligui. C'est ce qu'a annoncé un communiqué du président de la transition, lu ce mercredi soir à la télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 8h.
Radio de la paix. À Bondoukou, 100.1 MHz.